Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé, bien-être, du lundi au vendredi de 15h à 16h. Nous sommes toujours dans notre studio à Roland-Garros, car Europe 1 a la joie d'être la radio officielle du tournoi. Et comme tous les jours, lui aussi, il est en joie, c'est le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Évidemment, bonjour Mélanie, bonjour à toutes et à tous.
Allez, au sommaire aujourd'hui, dans notre grand dossier du jour, à l'occasion de la journée mondiale contre les troubles de la conduite alimentaire, nous vous proposons un éclairage sur l'un d'entre eux encore trop tabou, à savoir la boulimie. Comment se manifeste cette pathologie? Quelles sont les causes d'ailleurs qui poussent une jeune femme, car oui, ce sont plus souvent des femmes qui sont touchées à développer cette sorte d'addiction à l'alimentation. Pour nous expliquer tout cela et nous parler également de la prise en charge des patientes atteintes de boulimie, nous recevrons le docteur Bruno Rocher, il est psychiatre et addictologue au CHU de Nantes. Ensuite, dans notre chronique Les Bobos du quotidien, le docteur Jimmy Mohamed nous propose aujourd'hui de faire un point Roland-Garros oblige sur les bienfaits du sport et même plus particulièrement du tennis. La petite balle jaune est aussi bonne pour notre santé, vous verrez. Et enfin, vers 15h50, nous retrouverons la chronique sexo de Catherine Blanc. Aujourd'hui, elle nous parlera des difficultés rencontrées par certains vis-à-vis du sexe oral.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour commencer ce magazine santé, c'est le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc, on va démarrer par cette question de Cécile. On l'écoute.
Bonjour, mon fils s'est fait opérer il y a un an parce qu'il avait son ongle de pied qui poussait en hauteur. On a fait des analyses, il y avait un champignon, donc on lui a enlevé toute la matrice de l'ongle. Là, ça repousse, mais ça repousse de la même façon. C'est-à-dire qu'il a toujours son ongle qui repousse en hauteur. On fait des bains de pied au Dakin, il essaye d'aérer, mais rien n'y fait. Est-ce que vous auriez une solution pour que ça s'améliore? Merci.
Alors, une question très précise, et pour y apporter une réponse très précise, nous avons interrogé pour vous le docteur Laurence Netter, elle est dermatologue à Paris.
Oui, Cécile, là, vous nous parlez de deux problèmes qui peuvent se rencontrer sur le même ongle, mais qui n'ont strictement rien à voir. L'ongle incarné, un ongle incarné, c'est un ongle qui est trop large, et effectivement, il pousse dans la chair, ça fait mal, et ça s'enflamme. Et donc, la seule façon de traiter ces ongles, c'est de les opérer, de diminuer la largeur de la matrice. Alors, ça se fait soit chirurgicalement, soit maintenant par ce qu'on appelle une phénolisation. Et donc, les soins à faire ensuite sont des soins de cicatrisation et de désinfection. Maintenant, un champignon, ça n'a strictement rien à voir. C'est un germe, un champignon, qui va attaquer l'ongle lui-même et que l'on traite soit avec des comprimés que l'on prend par la bouche, soit par des vernis qui contiennent des antimycosiques qu'il faut mettre très régulièrement sur l'ongle. Alors peut-être qu'il y a les deux problèmes, mais il faut bien différencier un ongle incarné qui est un problème chirurgical et une mycose qui est un problème médical.
Voilà, c'était le docteur Netter au micro de Benjamin Lévesque. Alors Jimmy, on va prendre une seconde question, comme tous les jours, qui nous a été envoyée cette fois-ci sur Facebook. Elle est pour vous, c'est Céline qui nous la pose et qui demande « Ma fille de 18 ans est en cours de diagnostic pour une fibromyalgie. Pensez-vous qu'elle puisse se faire vacciner contre la Covid ?» Alors Jimmy, une question qui concerne la vaccination Covid, on en reçoit beaucoup en ce moment et c'est bien normal. Dans le cas précis de la fille de Céline, qu'est-ce qu'on peut lui répondre ?
Alors on va faire une réponse un peu globale. Évidemment qu'il n'y a pas de contre-indication à la vaccination contre le coronavirus quand vous avez une fibromyalgie, qu'elle soit diagnostiquée ou en cours de diagnostic. Et puis d'une façon générale, il n'existe aucune maladie qui contre-indique la vaccination. La seule chose qui fait qu'on va peut-être faire attention, c'est si vous êtes allergique à un des composants du vaccin, ce qui reste encore très très rare. Donc quelle que soit la maladie, eh bien, il n'y a aucun risque.
Donc il n'y a aucune maladie qui ne contre-indique, même pas, j'en sais rien, si j'ai une pathologie respiratoire particulière.
Et au contraire, on va prendre le contre-pied. Plus vous avez des pathologies et plus elles sont graves, plus vous êtes à risque de faire des formes graves de coronavirus. Et donc, plus la vaccination est recommandée pour vous. Donc si jamais vous avez des proches qui sont un peu âgés ou qui ont de l'insuffisance cardiaque, de l'insuffisance respiratoire, de l'hypertension, du diabète, eh bien, il faut les inviter à discuter pour se faire vacciner. Pas d'obligation, mais peut-être quelques recommandations.
Très bien. Alors, en revanche, il y a des états pathologiques, ça on en sait plus aujourd'hui, à l'inverse, pour lesquels désormais on recommande même 3 doses de vaccin. Pour quel type de cas, par exemple?
Alors, on sait que la vaccination est un peu moins efficace quand on est soit immunodéprimé, soit du fait d'une maladie, comme lorsqu'on a une insuffisance rénale terminale avec avec de la dialyse, lorsqu'on est transplanté ou lorsqu'on a des traitements immunosuppresseurs. Et on sait que la réponse vaccinale est moins bonne et que 2 injections ne sont pas suffisantes. Raison pour laquelle on propose une 3e injection 4 semaines après la 2e pour augmenter l'immunité. Et puis, il ne faut pas l'oublier, c'est que plus on sera vacciné, plus on protégera les gens fragiles puisqu'on va supprimer la circulation du virus. Et ça leur permettra, même avec ces 2 ou 3 doses, d'être protégés car la 3e dose, elle n'est pas parfaite. Elle augmente un peu l'immunité, mais pas encore suffisamment. Et donc, c'est pour ça qu'il faut tous, jeunes comme vieux, se faire vacciner.
Se faire vacciner, c'est pour soi. Et donc, pour les autres, on l'accomplit. Jimmy, puisqu'on est sur la vaccination, désormais, elle est ouverte quasi à tout le monde. On est sur la bonne voie, selon vous?
Oui, on avance. Hein, on est en train d'écraser l'épidémie. On ne sait pas pour combien de temps, car les variants peuvent redistribuer les cartes. Évidemment, on est aux alentours de 26 millions de premières doses, avec 11 millions de Français vaccinés avec une dose. Attention, l'Angleterre connaît un rebond de coronavirus qui est léger pour l'instant. Mais c'est le début du coronavirus, avec des patients qui ont été majoritairement vaccinés avec une seule dose. Et donc, il faut les 2 doses et qu'on soit tous vaccinés pour y voir un peu plus clair.
Donc, on ne prend pas sa vie comme ça tranquille quand on n'a eu qu'une dose. Hein. 2 doses, c'est très important.
Je vous donnerai un seul chiffre. Le risque de développer une forme grave de Covid baisse de 87% chez les personnes de plus de 75 ans après la 2e injection, 1 semaine après. Ça veut dire qu'il faut 2 injections plus 1 semaine pour être vraiment protégé. La vaccination, elle marche, elle prend du temps, mais on doit tous être vaccinés pour s'en débarrasser.
Les généralistes aussi vont pouvoir vacciner, notamment avec du Moderna. Ça va être un plus, selon vous?
Je pense que c'est un plus, évidemment. Il ne faut pas cracher dans la soupe, mais c'est un peu homéopathique puisqu'on a très peu de flacons. Hein. J'ai le droit à 1 flacon et puis les commandes.
Ou un flacon par semaine, quoi,
elles sont suspendues, les commandes, pour 3 ou 4 semaines. Donc on va pouvoir faire des rappels. Les patients qui ont eu AstraZeneca et qui ont moins de 55 ans.
Vous allez pouvoir faire leur rappel à ces gens-là.
Exactement, je le fais samedi prochain. Et puis pour le reste, il va falloir patienter. Mais on va y arriver tous ensemble, j'en suis persuadé.
Très bien, merci beaucoup Jimmy. Alors si vous aussi, vous voulez nous laisser vos questions santé, bien-être au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout n'hésitez pas.
Europe 1.
Dans un instant, notre grand dossier du jour dans lequel on va s'intéresser à un trouble de la conduite alimentaire, la boulimie. On n'en parle pas assez, mais de nombreuses femmes surtout sont concernées, parfois même pendant des années, sans consulter. Alors justement, comment sortir de ce trouble? Comment prend-on en charge les patientes touchées? On va tout vous expliquer, à tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
Très heureuse de vous retrouver dans Sans rendez-vous, votre émission santé, bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h et on est toujours en direct de Roland-Garros. Alors c'est le moment d'accueillir notre invité pour le dossier du jour. C'est vous, docteur Bruno Rocher, bonjour.
Bonjour Mélanie.
Vous êtes psychiatre et addictologue au CHU de Nantes et vous êtes avec nous aujourd'hui à l'occasion de la journée mondiale contre les TCA, les troubles des comportements alimentaires, organisée par la FAB, Fédération Française Anorexie Boulimie. Et donc nous aujourd'hui on a décidé de faire un éclairage sur la boulimie, l'hyperphagie. Alors docteur, d'abord on va être clair, c'est une maladie, c'est pas juste des patients, des patientes qui ont peu de volonté, qui craquent comme ça sur de la nourriture quoi.
Non, c'est effectivement une maladie qui est envahissante, qui est problématique parce qu'elle a des conséquences qui peuvent être graves et qui surtout va omnibuler le patient jusqu'à limiter ses capacités de liens sociaux, d'investissement, d'autres sujets centraux de sa vie.
Et justement, comment est-ce qu'on définit clairement la boulimie? Je suppose qu'il y a une vraie définition reconnue par tous.
Oui, la boulimie nerveuse fait partie des troubles psychiatriques qui sont du coup codifiés dans le DSM. C'est une manière de définir les choses.
Le DSM, c'est le grand livre des maladies psychiatriques. Et
exactement, qui pour nous, les psys, permet de codifier les maladies, de parler le même langage tout autour de la Terre. Et effectivement, le comportement boulimique, qui est une crise d'ingestion alimentaire d'une quantité extrêmement massive de nourriture, qui se fait après au décours d'une. Avec une compensation, un vomissement au décours, une conduite de purge qui se fait à la suite, est extrêmement envahissant et inquiétant parce que pour ces patients-là, il y a une telle omnibulation finalement de maintenir le poids, d'annuler la conduite honteuse de prise alimentaire que c'est quelque chose qui va leur prendre la tête finalement d'une manière extrêmement importante.
Est-ce qu'on peut classer ça d'une certaine façon, parce que vous parlez d'être omnibulé par la nourriture, d'une sorte d'addiction à l'alimentation, une addiction, oui, comme le tabac ou l'alcool?
Oui, alors du coup, il y a deux tableaux qui s'intriquent assez fortement, qui sont le tableau d'addiction alimentaire qui est décrit, mais qui n'est pas codifié directement dans le DSM, et la boulimie nerveuse. La boulimie, elle est codifiée, c'est ingestion, purge d'alimentation et préoccupation autour de la nourriture d'une manière très massive. La question de l'addiction alimentaire, c'est finalement que cette question de la préoccupation qui centre le problème du sujet autour de cette notion-là. Mais on peut être addict à l'alimentation sans avoir cette notion d'hyperphagie ou de binge que l'on va redéfinir tout à l'heure, qui est une crise alimentaire.
Et on sait combien de patients en souffrent en France et on a l'impression que c'est plutôt des femmes qui vont en souffrir. Est-ce que c'est vraiment le cas?
Alors c'est vraiment le cas en termes de quantité et de proportion, c'est-à-dire que les troubles des conduites alimentaires sont essentiellement des histoires de jeunes femmes si on prend les proportions, mais ça peut toucher tous les âges et tous les sexes.
Et on a une idée des chiffres, parce que bon, j'imagine évidemment qu'on n'a pas toutes les patientes diagnostiquées forcément, vous disiez c'est une maladie honteuse, beaucoup de patientes ne consultent pas, on sait, je ne sais pas, 1%, 2%...
Oui, alors les estimations du nombre de consultants sont assez variables, mais ça va de 20 à 50% de consultants, c'est-à-dire qu'il y a une majorité finalement de patients qui passent à travers les mailles du filet et qui se retrouvent du coup non suivis, non perçus, non accompagnés par rapport à leurs difficultés.
Vous disiez que c'était des jeunes femmes. Dans quelle tranche d'âge on les trouve? C'est l'adolescence? Parce que je crois que ça démarre un peu plus tard que l'anorexie, par exemple. Là, c'est souvent des jeunes filles. Mais...
Typiquement, le début des troubles boulimiques est postérieur au trouble anorexique, qui est plus souvent dans le début et le prime abord de la transformation pubertaire, parce que c'est aussi à ce moment-là que les choses se déclenchent. Et pour la boulimie nerveuse, soit elle est au décours d'une anorexie, parce que c'est des modifications alimentaires qui sont présentes à ce moment-là, soit elle est plus isolée, on considère qu'elle est effectivement un petit peu plus tardive d'évolution sur l'adolescence tardive et le début de l'âge adulte.
Et on met combien de temps entre les premiers symptômes et le diagnostic, puisque c'est caché en fait, hein, c'est considéré comme une maladie honteuse, et vous allez peut-être nous en parler, des comportements qui vont s'adapter, mais du coup, combien d'années on peut passer sous les radars des docteurs?
Je pense qu'on peut passer sous les radars, malheureusement, pendant des années, voire des dizaines d'années. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de rencontrer des jeunes femmes de 30, 40 ans qui ont commencé leur boulimie à l'adolescence et qui n'ont jamais consulté un médecin à ce titre-là, qui n'ont d'ailleurs fait tout ce qui a été possible pour elles pour dissimuler cette conduite qui est effectivement vécue comme particulièrement honteuse.
Et vous les récupérez dans quel état, ces femmes-là, du coup?
C'est forcément les situations qui sont les plus difficiles à traiter, parce que là, on va en reparler probablement un petit peu, mais les histoires de Covid qui sont très aiguës, c'est des situations qui sont relativement mobilisables parce qu'il n'y a pas beaucoup d'ancienneté dans la conduite. Pour les questions de boulimie qui ont évolué pendant 10 ans, 20 ans toutes seules, c'est extrêmement difficile à mobiliser. C'est la question de l'addiction dont vous parliez tout à l'heure, où on ne se change pas comme ça.
Est-ce qu'on a identifié des causes de boulimie? Est-ce qu'il y a des profils de jeunes filles qui sont plus à risque?
Alors oui, il y a des profils de jeunes filles. Il y a vraiment les notions d'une estime de soi corporelle notamment qui est plus faible, avec des préoccupations corporelles qui sont présentes, qui sont plus faibles, avec des histoires aussi familiales d'hérédité qui sont possibles, génétiques ou non, qui sont aussi par habitude et par ambiance familiale d'une certaine manière, de centration autour d'une perfection corporelle, autour de préoccupations alimentaires qui sont particulièrement présentes. Et puis, il y a toute la frange des traumas qui s'expriment par le biais de la boulimie. On sait que c'est une maladie de l'adolescence qui va souvent être associée à des histoires notamment aussi de scarification ou d'autres conduites de maltraitance corporelle qui, assez régulièrement, peuvent cacher des traumatismes. D'où l'intérêt aussi d'aller consulter un médecin, un psychologue, un psychiatre pour aller aborder ces questions-là.
Docteur Rocher, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez bien avec nous. Europe 1. Dans ce rendez-vous, on vous propose aujourd'hui un décryptage sur ce trouble de la conduite alimentaire, la boulimie, une pathologie encore trop taboue avec des jeunes femmes touchées qui bien souvent n'osent pas consulter. Alors justement, quels sont les signes qui doivent donner l'alerte? Comment se pose le diagnostic? On y revient très vite. A tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus. Alors, il est toujours en studio avec nous. C'est vous, docteur Bruno Rocher. Vous êtes psychiatre et addictologue au CHU de Nantes. Et vous êtes avec nous aujourd'hui pour cette première journée nationale contre les troubles des comportements alimentaires, qui est organisée donc notamment par la Fédération française anorexie-boulimie. La boulimie, c'est justement notre sujet aujourd'hui. On a vu tout à l'heure, on a de nombreuses patientes qui peuvent passer des années à souffrir en silence, sans consulter. En général, ça commence comment, ces troubles? Est-ce que c'est directement une jeune fille qui va avoir des compulsions, vomir comme ça très rapidement, très brutalement, ou est-ce que ça commence un peu plus subtilement que ça?
On a les deux tableaux qui sont possibles. Il y a vraiment des jeunes filles qui vont découvrir progressivement cette conduite au milieu du reste, qu'il faudra bilanter d'ailleurs. Et puis des fois, le fait qu'il y ait cette espèce de tilt qui fait qu'il y a une souffrance psychique qui est vécue parce que environnement, parce que école ou n'importe quoi. Et finalement, cette conduite d'ingestion alimentaire va être extrêmement satisfaisante. Et par nécessité de contrôle pondéral, effectivement, il y aura une purge à la suite. Les réseaux sociaux actuellement sont des moyens d'apprentissage aussi, de la connaissance de comment on peut faire ces éléments-là qui sont importants. Les patientes peuvent raconter ça. Avant, c'était plutôt des choses qui se racontaient aussi dans les services ou qui se disaient dans les cours d'école, de lycée. Là, on sait que les réseaux sont un moyen de s'imprégner aussi de cette possibilité-là.
Ça veut dire que les réseaux sont facilitateurs finalement pour développer et finalement être plus performants et finalement passer sous le radar des parents, parce qu'on ne fait pas ça en public, on fait ça en cachette. Est-ce que pour les parents, il y a peut-être 2-3 astuces pour repérer justement un enfant qui serait peut-être en souffrance?
Alors, les réseaux sociaux sont des facilitateurs de communication avec bénéfices et inconvénients, ça c'est une réalité, ça se joue aussi sur les domaines médicaux. Après, le passage sous les radars des parents, c'est le jeu de l'adolescence aussi et de la conduite notamment de cet ordre-là, où de toute façon les enfants, les patients en tout cas que nous on rencontre, sont souvent extrêmement honteux et puis avec nécessité de garder cette intimité autour d'une conduite qui leur appartient, qui est aussi vécue comme telle et comme un espace de liberté pour eux, qu'ils ont besoin de mettre à distance de la sphère parentale.
Alors Jimmy l'a dit un peu tout à l'heure, mais les moments de crise, ces moments de craving, quand vraiment ils vont se ingurgiter beaucoup de nourriture, ça se fait pas en public. On est d'accord, ce sont des enfants par exemple à table, si je suis parent et que je m'inquiète peut-être pour mon enfant, à table, ils vont manger normalement. Ils ne vont pas faire une crise de boulimie devant leurs parents.
Non, généralement, la conduite est tout à fait masquée aux yeux des parents. Et après un repas qui peut passer comme tout à fait normal, l'enfant sait organiser une réserve alimentaire ou va piquer un petit peu en douce dans les réserves familiales, mais en essayant quand même de dissimuler sa prise alimentaire et aller faire finalement sa crise à l'intérieur de sa chambre, puis aller vomir aux toilettes de l'étage, par exemple.
Et est-ce qu'ils vont manger certains aliments en particulier, des choses plutôt grasses, sucrées, salées, ou ça peut être des choses plus saines, entre guillemets?
Ouais, alors...
La crise de boulimie au concombre, pas trop, non?
C'est arrivé, mais ouais. C'est pas le plus fréquent, effectivement. Mais j'ai vu, après, on voit vraiment toutes les conduites alimentaires qui peuvent se verrouiller sur des sélectivités bien spéciales, sur des choses comme ça. Mais effectivement, le grand traditionnel, c'est plutôt effectivement, et le repère pour les parents que vous posiez, Jimmy, c'est une alimentation qui va être décrite comme, avec beaucoup de guillemets, je sais pas si ça passe à la radio, mais plus saine, c'est-à-dire des légumes, des choses légères, des choses liquides aussi, et une exclusion du gras et du sucré. Et puis, finalement, à l'extérieur de cette prise-là, qui est, on va dire, allégée, des prises extrêmement gras et sucré qui se font pendant la crise au couvert de l'annulation possible.
Vous nous disiez tout à l'heure que ça pouvait être considéré d'une certaine façon comme une addiction alimentaire. Donc moi, je sais pas, quand je fumais, quand j'étais accro au tabac, ça me procurait de plaisir de fumer ma cigarette. La crise, le moment où on ingurgit de la nourriture, c'est un moment de soulagement
Les patientes le décrivent essentiellement comme ça, avec un gradient qui fait qu'au début, c'est particulièrement plaisant. Et puis, comme sur un modèle addictif, finalement, après, on va surtout faire des crises pour éviter le manque de ne pas pouvoir la faire. Et on est sur cette même pente du côté de la boulimie nerveuse. Et il y a des patientes qui décrivent très bien que finalement, à partir de midi, 13h, elles se disent « Voilà, ce soir, je sais déjà. » Et elles anticipent, elles sont tout à fait capables de vous décrire ce qu'elles vont acheter, où elles vont le consommer, à quel rayon de supermarché les choses seront prises, à quel moment il y aura la purge, dans quelles conditions, qui sera pour veiller, et avec du coup un envahissement de la vie psychique qui est totalement parasité par cette crise.
Et du coup, une fois que la purge arrive, est-ce qu'on l'a fait parce que justement on est dans le contrôle du poids et de l'image, ou parce que finalement elles sont dégoûtées de ce qui s'est passé en disant mais franchement c'est pas raisonnable ce que j'ai fait, il faut que je passe à autre chose?
Vous avez raison, et les deux sont possibles. Le contrôle du poids est quand même le vecteur principal, mais à côté de ça, c'est extrêmement important d'aller questionner un petit peu quelles sont les hontes qui peuvent être présentes, les images corporelles, les sensibilités autour de cette question alimentaire. Qu'est-ce que ça veut dire de se faire plaisir ou pas se faire plaisir, et d'aller questionner, ouvrir du coup sur les aspects psychothérapeutiques de cette question-là.
Elles se font pas toutes vomir, on est d'accord?
Non, mais c'est la conduite de purge principale, c'est-à-dire que le vomissement, ça doit bien être 80% des situations de boulimie qui se font comme telles. Les autres possibilités de purge sont à la fois du côté des laxatifs, mais aussi du côté des jeûnes sélectifs très spécifiques qui se font 1, 2, 3 jours après la crise de boulimie sur lequel le patient a succombé à une perte de contrôle.
Est-ce que ces crises, elles en font combien par semaine? C'est tous les jours? C'est plusieurs fois par jour? Ça dure combien de temps?
Alors, le minimum, c'est quelques-unes par semaine sur plusieurs mois de suite, et ça, c'est le cas off bas du DSM, qui oblige à ce qu'il y ait quelques crises qui apparaissent suffisamment fréquemment et suffisamment prolongées dans le temps pour qu'on soit dans une pathologie, parce que de faire une crise à l'adolescence ou même une dizaine de crises sur l'ensemble de son adolescence, c'est pas une pathologie en soi, c'est aussi quelque chose qui est assez fréquent et tout à fait banal et relativement banalisable comme n'importe quelle conduite d'expérimentation de l'adolescence. Par contre, les situations les plus sévères, c'est 4, 5, 6, 7 heures de crise par jour avec facilement une dizaine de vomissements au sein de ces crises, avec des phases de remplissage et de sortie qui sont permanentes. Et c'est là où les risques physiques sont forcément les plus importants.
On va y revenir. Docteur Rocher, vous restez avec nous, on va continuer cet entretien dans quelques minutes.
Europe 1.
Sans rendez-vous revient dans un instant, on va poursuivre cette émission dans laquelle on vous dit tout sur la boulimie, et justement on va passer à la prise en charge de ces patientes, car oui, il est possible de s'en sortir, la majorité de celles qui consultent guérissent. On va vous expliquer sur quoi repose précisément le traitement. A tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous sur Europe 1. Roland Garros, l'événement tennis est sur Europe 1.
Europe 1 vous fait gagner 2 places à Roland-Garros pour la finale de votre choix. Homme ou femme, c'est vous qui choisissez pour jouer et avoir une chance de gagner. Envoyez tennis au 739-21. Le tirage au sort s'effectuera le mercredi 9 juin. Allez, je vous le rappelle, tennis au 739-21. Bonne chance à tous.
Tennis au 739-21. 75 centimes plus coût d'un SMS. 2 SMS pour jouer. Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Vous êtes sur Europe 1 dans son rendez-vous. On parle de boulimie avec le docteur Bruno Rocher, qui, je rappelle, est psychiatre et addictologue au CHU de Nantes. Alors, on a expliqué un petit peu quelles étaient les causes, qu'était cette maladie, comment le vivaient justement les patientes concernées. Quels sont les risques quand même pour la santé? Alors, parce que, bon, à court terme, se faire vomir une fois ou deux, faire des grosses crises d'hyperphagie, admettons, c'est pas forcément très grave. Peut-être sur la balance, mais c'est tout. Mais sur le long terme, pour la santé globale de ces jeunes femmes, quels sont les risques?
Alors, pour déjà redifférencier, parce que c'est un important la différence entre la boulimie et l'hyperphagie boulimique. La boulimie, il y a une purge et donc le poids reste stable et normalement ne bouge pas tout au long de la vie du patient ou de la patiente. Par contre, l'hyperphagie, effectivement, il n'y a pas de compensation. Il y a une prise alimentaire qui fait qu'il y a prise de poids et toutes les conséquences physiques de ça. Pour ce qui est de la boulimie nerveuse, du coup, les conséquences sont doubles. Elles sont à la fois psychiques sur la question de l'envahissement et sur les questions d'idées suicidaires, de mal-être et de toute la kyrielle de symptomatologie anxieuse qui peut aller avec un trouble des conduites comme tel. Et puis après, ce sont des conséquences qui sont clairement des conséquences physiques de l'hyperphagie, notamment le fait de s'abîmer le tractus digestif haut, l'œsophage, l'estomac, d'avoir des troubles digestifs bas plus importants, plus fréquents, des reflux qui sont extrêmement possibles et importants, des dégradations dentaires qui peuvent être réellement délabrées dans les
phases.
Ça, c'est
un motif, une raison importante pour les
patients. Et ça, c'est une vraie raison importante, c'est une vraie raison du travail de réseau aussi qu'on doit faire et de mener avec les collègues dentistes qui souvent repèrent ces questions-là et des fois ne savent pas comment aller aborder parce qu'ils ont bien vu qu'il y avait quelque chose qui se passait dans la bouche qui est probablement une arrivée massive d'acide
ouais.
qui va attaquer les dents, mais des fois sont tout à fait à l'aise pour dépister la boulimie et c'est des vrais facteurs de déclenchement de conduite, de soins qui sont tout à fait aidants et puis des fois c'est tu alors que ça ne devrait pas l'être.
Comment ça se passe la consultation avec une patiente qui souffre de boulimie et vous recherchez d'autres symptômes comme de l'angoisse, de la dépression, des insomnies? Est-ce qu'elles ont peut-être aussi du mal à dormir?
Ouais, alors c'est là où nous on considère que la boulimie est une pathologie addictive et on va se comporter comme pour n'importe quelle autre addiction. C'est-à-dire qu'on va faire un screen de l'ensemble des addictions, tabac, alcool, cannabis, jeux vidéo, jeux d'argent, n'importe quoi, enfin toutes ces troubles de conduite qui peuvent exister aussi en dehors de l'alimentaire. On va faire forcément un tour des questions psychiques, angoisse, dépression, qualité de sommeil.
Elles sont parfois dépressives, c'est possible?
Oui, c'est des comorbidités qui sont tout à fait fréquemment associées, on va dire, du côté de 30 à 50% quand même, qui sont sur vie entière tout à fait possibles. Donc on est dans ces recherches-là qui doivent être faites. Et puis on fait aussi une évaluation de la capacité, et ça prend du temps, de mobilisation du patient dans une volonté de changement. Parce que, comme souvent, et je le disais tout à l'heure, c'est une liberté vécue d'avoir cette conduite-là qui est du côté de leur intimité, qu'elles ne souhaitent pas forcément changer dans un premier temps. Et là, il y a un accompagnement spécifique à pouvoir doser pour vérifier quelle est leur capacité, leur volonté d'engagement dans un changement.
Vous avez dit elles sont parfois, et de manière concomitante, atteintes de dépression. Donc j'imagine qu'il peut y avoir une prescription médicamenteuse. Je pense forcément aux antidépresseurs. Est-ce que c'est utile dans cette pathologie, ce type de médicament?
Alors oui, ça peut être utile. Comme je vous le dis, la question de l'alliance thérapeutique et de la volonté de changement est particulièrement fragile chez ces patients-là. Donc on ne va jamais attaquer sur un traitement antidépresseur parce qu'on a vraiment une alliance à créer dans un premier temps. Une fois que l'alliance est créée, différents types de prise en charge psychothérapeutiques sont menées, comportementales, de TCC aussi. Il y a possibilité, notamment s'il y a une comorbidité, d'avoir une prescription d'un antidépresseur qui, pour certains, en plus, ont montré une capacité à limiter le craving alimentaire que vous signaliez.
Parce que justement, on comprend que la prise en charge, elle est difficile, elle est longue et qu'on ne va pas tout régler d'un coup de baguette magique et du coup, qu'il faut qu'il y ait peut-être d'autres praticiens, que la prise en charge est multidisciplinaire. Comment ça se passe?
Absolument. Alors, ça aussi, ça fait partie de l'évaluation des quelques premières consultations que nous on propose, où on fait le tour des symptômes, comme on le décrivait tout à l'heure, mais aussi des forces en présence. C'est-à-dire, quels sont les praticiens qui sont présents, qui ont déjà été présents, qu'est-ce qui a été utile et qu'est-ce qui ne l'a pas été. Mais finalement, une fois qu'on est passé dans cette phase de bilan, cette moulinette-là de bilan, on doit ressortir un projet de soins. Et le projet de soins, il va toujours passer par le médecin traitant, en tout cas nous on le sollicite très fortement. Quelqu'un qui s'occupe du psy, le psychologue, le psychiatre, psychomotricien, enfin un psychothérapeute, ouais. Ça dépend aussi de ce qui est à ta disposition, et quelqu'un qui va s'occuper de l'assiette, nutritionniste et diététicien. Après, il y a d'autres partenaires de soins qui sont possibles, mais au moins ce trépied-là, médecin, assiette, tête, on va dire ça comme ça.
Néanmoins, la bonne nouvelle, et on va terminer par ça, c'est que quand même beaucoup, beaucoup de patientes qui consultent, encore une fois, guérissent, hein, vraiment. C'est quoi les chiffres aujourd'hui?
Les chiffres, ils sont facilement à plus de 50% de guérison, effectivement, dans les situations qui sont prises en charge, notamment sur des services spécialisés. Après, on n'est pas du tout obligé d'être sur un service spécialisé, mais encore une fois, une graduation de types de soins qui sont à proposer en fonction des niveaux de gravité des patients.
Merci beaucoup, docteur Rocher, d'avoir été avec nous. Et pour conclure, je précise qu'il existe un numéro d'aide, anorexie, boulimie, info, écoute au 0810 037 037. Je répète, 0810 037 037. Et pour avoir plus d'infos, un site internet également, journeemondialetca.fr. Voilà, tout est dit. Merci encore, docteur.
Europe 1.
Dans un instant, notre chronique Les Bobos du quotidien, dans laquelle Jimmy va nous rappeler tous les bienfaits et même les plus surprenants du sport, et tout particulièrement ceux du tennis. Et oui, jouer de la raquette, c'est bon pour la santé. A tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
Votre émission Santé Bien-être sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. Nous sommes toujours à Roland-Garros, Europe 1, radio officielle du tournoi. Alors à présent, notre chronique, les bobos du quotidien, avec un éclairage cet après-midi sur les bienfaits du sport. Quelles sont les recommandations officielles pour la population pour rester en bonne santé? Une piqûre de rappel ne fait jamais de mal. Et on va commencer par ça, Jimmy, justement. C'est quoi la base, on va dire, hein, pour tout le monde, pas pour les gens qui ont la forme physique comme vous de Raphaël Nadal, quoi.
Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Alors les recommandations, c'est 30 minutes d'activité physique modérée et intense. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la marche seule ne suffit pas. Il faut avoir le souffle court et avoir du mal à parler. C'est là qu'on parle d'activité modérée et intense. 5 jours par semaine, en évitant si possible 2 jours sans rien faire. C'est-à-dire mine de rien qu'il faut un peu se lever. Donc,
vous avez quelques jours de retard, Julien, ouais, je crois.
Quelques mois.
Allez, chez les enfants et les ados, c'est un peu différent, les recos?
Oui, c'est plus strict. Les enfants et les adolescents ont besoin d'une heure d'activité physique tous les jours.
Tous les jours, il n'y a pas de repos.
Du lundi au dimanche, quelle que soit la période de l'année, et on se rend compte qu'on n'atteint absolument pas les recommandations. On est aux alentours de 20% des ados qui font cette heure de sport tous les jours. Donc ils sont sédentaires, derrière les écrans, ils dorment moins bien.
On comprend mieux l'épidémie de surpoids qui les touche. Alors à présent, Jimmy, on va rappeler quelques petites évidences, mais très concrètement, Jimmy, bouger, avoir une activité physique, c'est bon pour quoi? Directement sur ma santé à moi.
Mais on l'oublie, mais c'est formidable, le sport, ça permet d'augmenter votre espérance de vie. Donc vous vivez.
Déjà, juste ça, la base.
Juste ça, on va mourir moins jeune. Et puis on va vieillir.
Mourir plus vieux.
Mourir plus vieux, oui,
ça, tout le monde a arrêté le sport, Jimmy, vite, attention.
Non, vous inquiétez pas, vous allez vivre très longtemps et puis avoir une bonne qualité de vie. Et puis mine de rien, le sport devrait faire partie des premiers traitements. Si jamais vous avez de l'hypertension artérielle, avant même de vous donner des médicaments, on vous dira d'aller faire du sport, puisqu'on sait que ça va baisser votre tension. Et puis on l'a vu pendant le confinement, les personnes diabétiques ont vu leur taux de sucre augmenter. Pourquoi? Car ils sont moins actifs. Le sport permet de faire baisser votre taux de sucre. Et puis ça va renforcer vos os, donc moins d'ostéoporose en vieillissant. Et puis mine de rien, vous allez mieux dormir parce que vous allez sécréter des endorphines. Et pour bien dormir, il faut être bien éveillé en journée. Et comme vous serez dépensé correctement, eh bien le soir, vous allez tomber de fatigue et bien vous endormir.
Très bien, Jimmy. Alors, on est à Roland-Garros, bien sûr. L'occasion de faire un point sur les bienfaits particuliers du tennis. En quoi c'est bon de taper dans la petite balle jaune?
Alors, c'est un sport complet, évidemment. Aucun lobby du tennis,
non,
tout va bien.
Non, mais quand même.
Je ne suis pas payé pour dire ça, bien qu'on espère avoir des places, mais c'est encore un autre débat. Alors,
il le place à chaque émission. Hein, quand
exactement, on ne sait jamais si quelqu'un nous écoute. Bref,
voilà,
en tout cas, d'un point de vue de santé, c'est un sport complet parce qu'il y a de l'endurance. Ça va durer longtemps. Vous allez accélérer, vous allez ralentir, vous allez renforcer l'intégralité de votre corps. Vous allez vous muscler, à la fois les bras, les jambes et le dos, et même les abdominaux, chose que je n'ai pas vue depuis très longtemps. Il va falloir être patient, ça prend du temps, et avoir une bonne coordination. Et les études montrent que les joueurs de tennis souffrent moins de maladies cardiovasculaires. 50% de risque de maladies cardiovasculaires et même 50% de risque de mourir d'une maladie cardiovasculaire. Donc concrètement, le tennis, comme tous les sports, augmente, comme je vous le disais, votre espérance de vie.
Bon, ça c'est quand même très physique, hein, le tennis. Pour ceux qui ont essayé, ils savent de quoi je parle, mais quand on n'est pas pro, en tout cas. C'est vraiment adapté à tous, même à ceux qui ont des antécédents cardiaques, par exemple.
Alors vous l'avez dit, c'est un sport qui est exigeant, donc attention au niveau du dos et des articulations. Et puis, si jamais vous avez une maladie cardiaque qui n'est pas stable, le tennis est contre-indiqué en l'absence d'avis médical, mais quel que soit le sport. Si vous mettez à courir alors que vous avez une maladie cardiaque pas stable, évidemment qu'il va se passer quelque chose. Donc, allez voir votre médecin dans un premier temps.
Et justement, pour les gens qui ont des maladies particulières ou même des pathologies pas forcément cardiaques, hein, il existe des séances de tennis santé pour des personnes avec des pathologies. En quoi ça consiste?
Alors, c'est des séances collectives hebdomadaires, 8 joueurs au maximum, et l'activité va être adaptée en fonction de l'état de santé, de votre âge et de vos capacités physiques. Concrètement, le terrain va être de taille variable, le filet va avoir une hauteur modulable, les balles vont être plus lentes ou les raquettes beaucoup plus grande, ce qui permet de faire du sport de façon plus agréable et en bonne santé.
Très rapidement, Jimmy, comment on s'y prend si on est intéressé par ce tennis santé?
Prescription médicale, vous allez voir votre médecin, il peut vous faire une ordonnance. Vous pouvez avoir un passeport tennis santé qui va être remis aux pratiquants lors du premier rendez-vous. Et puis, il peut y avoir une prise en charge en fonction des collectivités, des mutuelles et des assurances. Renseignez-vous, je vous assure, ça marche très bien.
On a toutes les infos sur le site de la FFT, la Fédération Française de Tennis. Merci beaucoup, Jimmy, pour toutes ces explications.
Europe 1.
Dans un instant, sans rendez-vous, de retour, bien sûr, avec la chronique sexo de Catherine Blanc. La sexo, dans un instant, à tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous sur Europe 1. Sans rendez-vous sur Europe 1.
La santé, le bien-être et la sexo, c'est sur Europe 1. Nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, bien sûr, le docteur Jimmy Mohamed. Et c'est Catherine Blanc qui nous rejoint pour sa dernière séquence tous les jours à la fin de cette émission. Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Aujourd'hui, Catherine, on va répondre à la question de Franck. On l'écoute.
Bonjour. Voilà, j'ai une petite question. Depuis que nous sommes en couple avec ma copine, elle ne veut pas me faire de fellation, de peur de mal faire ou de me faire mal. Et je vous avoue que moi, ça m'embête un peu. Est-ce que vous avez des conseils à me donner pour que je puisse la rassurer de ce côté-là?
Alors Catherine, bon, on n'a pas la version de la copine de Franck, mais est-ce que ça arrive vraiment d'avoir peur de faire mal au point de se bloquer complètement?
Alors, de faire mal, c'est-à-dire de mal faire ou de faire mal...
Tu as dit les deux, peur de mal faire ou de me faire mal, je ne sais pas.
Alors, d'abord, il faut comprendre que c'est normal que d'abord une personne puisse avoir des réticences, une femme puisse avoir des réticences à faire une fellation, et que ce puisse être un argument pour ne pas le faire, c'est la peur de ne pas savoir s'y prendre, et la peur de faire, mal, de faire du mal. Donc, d'une certaine manière, je dirais que sa problématique, c'est l'inquiétude qu'elle a, elle, d'avoir une bouche qui va accueillir un pénis dans lequel il y a des dents. Et est-ce qu'il faut serrer, pas serrer? Est-ce que je risque de mordre, de manger? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Et finalement, ça renvoie pas tellement, parce que techniquement, on pourrait se dire, si je veux pas mordre, on s'en a tous fait l'expérience de sucer quelque chose. On sait très bien qu'on sait faire la différence, le distinguo entre sucer et mâcher, mordiller et mordre, et jouer de sa langue pour caresser le cas échéant. Donc si elle est à ce point inquiète, c'est qu'en fait, ça réveille une anxiété qui est plus inconsciente et qui est une anxiété de dévoration, en quelque sorte, ce que nous avons tous en nous, hein, parce que, enfant, on a fait l'expérience d'avoir envie de manger, de mordre, de se défendre, et les femmes en particulier. C'est-à-dire que l'agressivité masculine est souvent une agressivité qui est des coups portés ou des projections, parce que le pénis d'un homme étant projectif, c'est assez naturellement l'individu se voix agressive par le biais de la projection, ouais. Quand pour les femmes, c'est mordre, pincer, tirer, en tout cas tenir. Et donc, du coup, évidemment, il y a une sorte d'inquiétude dans cet acte sexuel, parce que la peur que, à mon insu, je puisse me révéler agressive à l'égard de ce pénis.
Est-ce qu'il faut s'entraîner, du coup, je sais pas, avec une glace pour faire la comparaison? Non, mais si on a peur de mordre avec les dents, non, mais je sais pas, est-ce que c'est un apprentissage?
Jimmy, il voudrait savoir s'il y a des tutos.
Un Mr. Freeze, est-ce qu'on achète un Mr. Freeze, un lot de Mr. Freeze? On dit, écoute, entraîne-toi et quand tu me montreras que tu peux terminer le Mr. Freeze sans.
Vous êtes plein de créativité, je sens l'érotisme chez vous.
J'ai inspiré cette semaine.
Donc non, pas d'entraînement, ce serait vexant de proposer ça.
Non, mais je crois que c'est surtout dans la relation. L'entraînement voudrait dire qu'il y a une performance à la clé. Je pense que c'est surtout amuse-toi avec mon pénis. C'est jouer, mais c'est comme quand tu fais imagine que je suis. C'est dans les conversations plutôt que dans la réalité. Franchement, le tuto, je crois que ça a dû exister ou ça doit exister. Je crois qu'en cherchant bien, on doit avoir quelques bananes et quelques glaces.
Ah oui, la banane, j'ai été chercher du côté de la glace, mais c'est vrai que la banane, on peut...
Plus simple, ça fait moins mal aux dents que la glace si on devait y jouer des dents.
Si on a l'émail sensible, à mon avis, la glace, c'est pas très visible.
Catherine, on est d'accord, il n'y a pas de mode d'emploi, elle est très inquiète. Non. Bon, là, c'est son conjoint qui nous contacte, mais il n'y a pas une bonne façon de faire, ça s'apprend avec le temps, ça vient tout seul, enfin, je ne sais pas.
Moi, je dirais d'abord, donc, ce qui est amusant, c'est, je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais lui dire, bah, je crois que la rassurer, il n'y a que lui qui peut la rassurer.
Ah oui, on peut pas le faire à sa place.
Hein, voilà, plus que moi, lui dire quel mot il faudrait qu'il emploie pour la rassurer, elle. C'est sa compagne, c'est à eux de jouer de sensibilité, d'humour, etc. Maintenant, pour dire comment faire, je crois que tous les pénis n'ont pas les mêmes attentes. Il y a des pénis qui ont besoin d'être abordés tout en douceur et délicatement, du bout du gland et petit à petit le corps du gland, avec la main, sans la main, etc. D'autres, au contraire, ont besoin d'être plus contenus, pris plus fermement, et donc une petite main toute délicate est un peu agaçante quand il voudrait être plus fortement entrepris. Ça dépend aussi d'un pénis avec un prépuce, un pénis sans prépuce, qui veut dire évidemment pas tout à fait la même gestuelle et la même pression pour ne pas risquer.
Il y a 18 méthodes, hein, Jimmy, j'ai voilà. Bien compris, différentes. Hein.
Et puis, vous avez compté?
Bah, je sais pas, il y en a beaucoup.
Voilà, mais oui, parce que tous les pénis ne sont pas les mêmes et n'attendent pas exactement les mêmes choses. Et puis aussi, il y a un truc, c'est qu'on croit qu'une fellation, c'est pour permettre à un homme de trouver son érection. Or, ce n'est pas pour trouver l'érection, c'est pour jouer et que ça provoque une érection le cas échéant. Et de même, une fellation, ce n'est pas sur un pénis automatiquement dur. Et ne nous stressons pas si l'homme ne trouvait pas son érection, ouais. Parce que c'est délicieux de s'amuser d'un pénis à l'état flaccide, justement, parce qu'il y a toute la liberté de jouer avec sa langue, etc. Il y a bien que les hommes qui veulent toujours bander. Je vous vois.
Je vous il a aussi des sourcils. On n'a plus le temps, Jimmy, de s'en
voilà,
détailler.
Gardez votre truc pour vous. On ne peut pas savoir.
Délicieux sur un pénis flaccide.
Mais oui, mais bien sûr, parce que ça permet de voir tous les possibles et puis de le sentir grandir. C'est extraordinaire. Enfin, voilà.
Allez, on restera sur ce pénis flaccide. Merci beaucoup, Catherine, pour tous ces conseils, votre bienveillance, comme toujours. Et donc, à demain. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Tout de suite, c'est Historiquement Vôtre avec Mathieu Noël et Stéphane Bern. Bonjour Stéphane, bonjour Mathieu.
Bonjour Mélanie.
Bonjour Mélanie.
Ah, vous rêvez de la Côte d'Azur. Eh bien, la Riviera, oui, les fait rêver, ils font rêver la Riviera. On va vous parler de Gérald et Sarah Murphy. Bah oui, c'est eux qui ont imaginé, créé la crique de la Garoupe. Henri...
Ils n'ont pas créé la crique, mais disons qu'ils l'ont
popularisée. Ils l'ont aménagée.
Ah, c'est vrai qu'ils l'ont aménagée.
Aménagée. Voilà. Et Lord Henry Broome. Mm-hmm. Eh bien, vous savez, c'est lui qui a découvert Cannes.
Ah, sans lui, pas de
avant
festival.
Le festival. Ouais. Bah, oui. Et moi, vous avez choisi qui?
Quelqu'un qui connaît bien le festival de Cannes. Il l'a fréquenté, il a été oscarisé. Et aujourd'hui, il cherche à acheter, figurez-vous, sur la Côte d'Azur. C'est un petit peu compliqué, c'est Georges Clooney. On espère qu'il va y arriver, il devrait s'installer à Brignoles.
Bon, s'il y a Georges Clooney dans le programme, moi je serai à l'écoute, c'est sûr. Et Jimmy, je crois qu'il aime bien aussi. Alors on va rester avec vous, et vous aussi qui nous écoutez, surtout restez sur Europe 1.